C'est le journal de Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour à tous, à la une de ce journal, le dépassement de soi grâce au sport ou quand la course à pied sort de la rue des SDF. Dans l'actualité encore, on remet les pendules à l'heure d'hiver, ce week-end. La sécurité routière appelle à la vigilance, la nuit tombera plus tôt, elle met en danger les piétons. À l'étranger, nous irons dans la ville de Kobané, désormais ancien lieu symbole des Kurdes de Syrie où patrouillent désormais les forces russes. Et puis, un match de NBA, de basket, à Paris en janvier prochain, c'est une première. La billetterie est ouverte pour les nombreux fans français.
Au micro d'Ali Badou, dans 20 minutes à 7h50, c'est aujourd'hui le réalisateur Costa Gavras pour son film Adults in the Room sur les écrans le 6 novembre.
France Inter.
Quand la course à pied, Laurence, mène à la réinsertion.
L'histoire se passe à Marseille, où quatre hommes enfilent shorts, t-shirts et baskets de running, tenue normale lorsqu'il s'agit d'aller courir, sauf que ces hommes sont des sans-domicile fixe que l'association La Bagagerie a décidé d'entraîner pour participer ce dimanche aux 20 km de Marseille à Cassis. Le résultat est saisissant, dépassement de soi, reconnexion au corps, aux émotions. Sortir ces hommes de la rue grâce au sport a été rendu possible, entre autres, grâce à l'aide d'anciens champions venus pour les entraîner. CSDF était une dizaine d'inscrits au départ et puis finalement 4 seulement sont allés jusqu'au bout de l'entraînement et ils seront dimanche sur la ligne de départ. Olivier Martoc.
À l'origine de ce projet, Alexandre Sens, l'animateur de La Bagagerie qui apporte une aide quotidienne aux SDF marseillais.
Forcément, ça réduit les addictions, que ce soit l'alcool, la clope ou les drogues. Et donc, ça vient rayonner sur tout le champ des possibles d'un individu.
Deux anciens champions répondent présents. Benoît Z, détenteur du record d'Europe de marathon.
Sur le premier entraînement qu'on avait mis en place, je me suis dit, c'est pas possible, on va pas faire 100 mètres. Ils étaient arrivés dans des états compliqués. Et en fait, ils ont rien lâché.
Et Joseph Mahmoud, vice-champion olympique du 3000 mètres steeple en 1984.
On leur a offert des chaussures vraiment adaptées à la course sur route. Et ils le méritent parce que... ils ont une grande volonté, ils veulent absolument réussir. Ce sont des gars bien, voilà.
Après plus de 6 mois d'efforts et d'entraînement intensif, Sébastien et Jean-Marc seront dans la course dimanche.
Quand vous passez une nuit dehors, le vent, la flotte, il faut se remettre à niveau, oui, ça motive. Et aussi pour montrer aux gens qu'ils arrêtent de juger les gens qui sont dans la rue.
Vu qu'on dort dehors, c'est plus compliqué parce qu'on récupère mal. Ça apporte une confiance en soi, ça remotive. Et on peut avancer et faire des choses constructives.
Et les deux hommes se voient désormais un avenir. Sébastien a trouvé un travail cet été. Jean-Marc, un stage de qualification. Marseille. Olivier Martoc, France Inter.
Ce week-end, c'est le changement d'heure. Dans la nuit de samedi à dimanche à 3h, il sera 2h du matin. Résultat, la nuit va tomber plutôt à 17h30 dès dimanche, au lieu de 18h30 la veille. Alors, attention, chaque année, la sécurité routière note une augmentation de la mortalité des piétons, surtout le soir entre 17 et 19h, quand on rentre du travail ou de l'école. Et elle demande aux piétons d'être prudents, Rémi Brancato.
À Trappes, dans les Yvelines, la Nationale 10 est particulièrement fréquentée. Et pour traverser près de cette petite zone commerciale, Bouchra n'est pas franchement rassurée.
J'attends bien que le feu soit bien rouge et que le bonhomme soit bien vert, parce que sinon, c'est dangereux. Le soir, à 5h, justement, comme on va changer d'heure, il fait nuit, c'est pas vraiment très très visible, non.
Et avec le changement d'heure, la nuit va tomber plus tôt, au moment de rentrer du travail ou de l'école. Alors sur son vélo, Fabien est équipé.
J'ai au moins 3 éclairages à l'avant et 3 à l'arrière aussi.
C'est le meilleur moyen d'être vu.
Là, ça va. Généralement, on m'appelle le sapin de Noël.
Régulièrement, à cet endroit, des piétons ont été renversés. Yasmina y passe souvent en voiture.
Il y a des piétons qui sont imprudents. Moi, j'ai failli renverser un jeune. Il y avait un vélo sans lumière. J'ai eu très peur.
Avec le passage à l'heure d'hiver, le danger augmente.
Dans les quelques semaines qui suivent le changement d'heure, on constate une augmentation de 50% du nombre des piétons qui sont tués par rapport à la normale.
Emmanuel Barbe, le délégué interministériel à la sécurité routière, appelle à la prudence.
Pour les parents, mon message est simple. Mettez des vêtements clairs aux enfants à cette période de l'année et surtout des cartables avec des bandes fluorescentes. C'est vraiment essentiel de se rendre visible. Le ridicule tue pas, tandis que le fait de ne pas être vu, oui.
Et dans les zones sombres, il conseille même aux piétons adultes de porter des bandes réfléchissantes sur leurs vêtements.
Rémi Brancato, la politique et cette question, la ville de Perpignan va-t-elle se laisser tenter par l'extrême droite? Ce sera l'une des grandes questions de ces municipales de mars prochain. Perpignan est la seule ville de plus de 100 000 habitants dans le viseur du Rassemblement National, ville où près d'un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté. La capitale des Pyrénées-Orientales avait échappé de justesse à Louis Alliot en 2014. Il lui avait manqué 2000 voix pour battre le maire sortant UMP. 3 ans plus tard, il avait réussi à remporter la législature législatives. Alors aujourd'hui, c'est avec sa casquette de député qu'il lance sa campagne municipale aux côtés de son ami et voisin, le maire de Béziers, Robert Ménard. Louis Alliot essaye de faire comme lui, se passer de la flamme du RN et rassurer la droite traditionnelle pour faire tomber la ville, Maxence Lambrecq.
C'est l'heure des derniers préparatifs dans sa très chic permanence.
Alors là, j'ai du ruban catalan pour terminer le buffet aux couleurs de Perpignan.
Et je vois pas de logo du RN ?
Non, il n'y en aura pas. Société civile ouverte à tout le monde. Voilà.
Il n'y a pas de photo de Marine Le Pen non plus ?
Non plus. Nous aurons des photos de Louis.
Louis Alliot, ex-directeur de cabinet de Jean-Marie Le Pen, il y a un an encore, vice-président du RN.
Ce coup-ci, la liste sera très large. Il y a un certain nombre de personnalités qui figurent dessus. Je préfère défendre le projet plutôt que défendre une étiquette.
Aucune étiquette aussi pour faciliter la conquête de l'agglomération. Sur cette liste apparaît Marion Bravo qui participait au mouvement libre de Valérie Pécresse.
Je trouve que maintenant, ces clivages politiques sont stériles et dégoûtent franchement de la politique.
Nouvelle liste et nouveau thème. En 2014, Louis Alliot n'avait pas su parler au patron de PME.
Ce sera surtout sur la qualité de vie et sur le développement économique que ça se jouera. Et c'est très important pour la suite.
Est-il donc en train de changer son image ?
Qui doute que M. Alliot est le candidat du Front National ? Personne.
Romain Gros, son adversaire En Marche.
Quels sont ses deux premiers actes de campagne ? Il fait venir M. Zemmour et il fait venir M. Ménard. Il cherche à nous vendre de la poudre de perlimpinpin.
Louis Alliot lui répondra ce soir en meeting à Perpignan, Maxence Lambrecq, France Inter.
À l'étranger, on ne connaît toujours pas les circonstances exactes de la mort de 39 personnes dans un camion frigorifique découvert à une trentaine de kilomètres de Londres. Hier, les autorités britanniques ont annoncé que ces victimes étaient chinoises, 31 hommes, 8 femmes. La garde à vue du chauffeur du camion, un nord-irlandais de 25 ans, a été prolongée. L'immigration chinoise vers les pays européens est moins connue, moins visible que celle d'autres pays. Et pourtant, elle existe depuis une dizaine d'années. Une partie de ces immigrés chinois arrivent avec un visa étudiant, puis décident de rester après l'expiration de leur papier. Une autre issue, plutôt des classes populaires, traverse une partie de l'Europe pour rejoindre leur destination finale, comme l'Angleterre ou la France. Explication de Simeng Wang, sociologue au CNRS. Il a recueilli dans son livre les témoignages de ces Chinois sans papier installés en France.
C'est plutôt un atterrissage dans un pays européen. J'ai beaucoup rencontré des gens qui arrivent en Europe de l'Est. Et ensuite, le reste du trajet, ils vont le faire soit en camion, soit par le train, soit en voiture. Ça, c'est le premier type de trajet, je dirais, classique, parce que j'en ai rencontré plus. Et puis le deuxième, c'est plutôt par le bateau, par la mer. Là, j'ai quelques témoignages de personnes qui sont arrivées en France par la Méditerranée. Et ensuite, ils ont fini leur trajet pour rejoindre Paris, la région parisienne, par train ou par camionnette. Le premier constat, c'est que les passeurs change très souvent. Il y a des témoins qui m'ont dit que presque à chaque fois entrer dans un nouveau pays, il y a un changement de passeur. Et deuxième constat, il y a un réseau qui s'organise depuis le pays de départ.
Simeng Wang, sociologue au CNRS. En Syrie, les soldats russes ont commencé à mettre en œuvre l'accord conclu avec la Turquie mardi dernier. Leurs troupes patrouillent les zones frontalières, contrôlent le repli des forces kurdes campées jusque-là à présent. Et c'est le cas notamment dans la ville de Kobané, ville symbole des Kurdes de Syrie. Reportage d'Éric Biegala et de Gilles Gallinaro.
Kobané, symbole militaire et politique des Kurdes de Syrie, est en train de perdre quelques plumes. Depuis la frontière, on distingue déjà sur les toits de la ville quelques drapeaux du régime qui flottent aux côtés de ceux des YPG, la milice kurde. Les troupes de Bachar al-Assad ont en effet repris pied à Kobané il y a déjà 10 jours. Quant aux Russes, ils sont aussi rentrés en ville, précise Ednan Bozan, cadre politique kurde joint à Kobané.
C'est le second jour depuis hier midi que les patrouilles russes font mouvement, qu'elles vont jusqu'à la frontière.
276 Russes sont censés contrôler que les forces kurdes auront bien évacué la zone frontière mardi prochain. Ednan Bozan le confirme, les YPG se replieront en effet, mais pas sans condition.
Nous nous retirons de toute la zone à la condition que la Russie puisse garantir que les Kurdes ne seront pas massacrés ou que les Arabes actuellement en Turquie ne seront pas transférés ici.
Mais un repli des combattants ne veut pas dire que l'administration de la ville échappera aux Kurdes.
L'auto-administration d'ici restera comme elle est. La police urbaine, les institutions civiles seront administrées comme avant.
Pourtant, il n'est pas évident que le régime de Bachar al-Assad, qui est en train de reprendre le contrôle militaire de toute la zone, tolère très longtemps une administration kurde autonome. À Mourchid Pinard, devant Kobané, Gilles Gallinaro, Éric Biegala, France Inter.
L'Union européenne, les États-Unis et les pays latino-américains haussent le ton contre le président bolivien Morales, réélu au premier tour au terme d'un dépouillement contesté. Ce décompte a également jeté dans la rue des milliers de Boliviens qui dénoncent une fraude électorale. De violents incendies en Californie, 50 000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer leurs habitations situées au nord de Los Angeles. Les flammes ont parcouru en quelques heures environ 2000 hectares de broussailles et menacent des habitations aux abords de la ville de Santa Clarita. Clarita, à 65 km au nord de Los Angeles, une région confrontée depuis plusieurs années maintenant à la sécheresse et en proie récemment à des températures très élevées.
Il est 7h40, c'est le jour J, Laurence, pour des milliers de fans de basket.
Les billets pour assister au match de NBA à Paris seront vendus aujourd'hui, à midi. Organisé en janvier prochain à Paris, le match Charlotte-Milwaukee passionne les foules. La France compte le plus grand nombre de licenciés de basket en Europe et c'est la première fois de l'histoire de la NBA qu'un match de saison régulière va se jouer dans l'Hexagone. Les billets s'arrachent et prouvent que la NBA s'intéresse énormément au marché français. Abel Belmouri.
Après des heures d'attente sur son ordinateur, Roman doit se rendre à l'évidence.
Je suis dégoûté, j'ai pas de place, j'étais 45 millième, j'ai vite compris que j'aurais pas de chance. Je vais retenter ma chance vendredi, on verra.
Comme Roman, ils seront des dizaines de milliers de déçus ce midi. 20 000 places pour le match, 140 000 personnes inscrites pour les préventes selon NBA Europe. Confirmation que le marché français est incontournable pour le basket américain. David Kahn l'a bien compris, l'ancien patron de la franchise de Minnesota est aujourd'hui président de Paris Basket.
Je pense que l'épicentre est le cœur du basket européen, c'est Paris. Je ne pense pas qu'il y ait dans toute l'Europe un marché plus important que celui de Paris pour la NBA. Et c'est pour ça qu'ils viennent. Ils savent que les gens en France sont déjà préconditionnés à suivre et à consommer la NBA. Donc ils viennent là où sont les fans. Évidemment, ils font ça pour des raisons économiques et pour générer des revenus supplémentaires.
Et ce n'est qu'un début pour Bastien Fontagneux, directeur de publication de Trash Talk. La NBA ne va pas s'arrêter là.
Le marché français, il est quasiment acté. C'est-à-dire que les gens se ramènent aux événements, achètent des maillots. La NBA va essayer de tester là des matchs à Paris pour voir si ça marche bien. Et d'ici 3 ou 4 événements bien réussis, ils vont se dire, bon, on fait quoi les gars? Un café, un shop, des terrains ou les trois en même temps?
Prochaine étape, un café ou un store labellisé comme il en existe à Barcelone ou à Milan.
Adèle Belloumri.
Merci Laurence Thomas. Nouveau point route, Emeline Ferry. C'est très compliqué, Emeline, sur l'A1 au sud de Lille.
Oui, vous perdez 1h20 quand vous partez en direction de Paris. Ça ne s'arrange pas. Un gros bouchon à cause d'un accident au niveau de l'aéroport. C'est compliqué aussi dans l'autre sens. Comptez une grosse demi-heure avec le pied sur le frein entre Dourges et Attiche. En Ile-de-France, ça va un petit peu mieux sur la 15 en direction de Paris. C'était très compliqué depuis 4h30 ce matin à cause d'un grave accident à Argenteuil. L'autoroute a été coupée pendant plus d'une heure, elle a rouvert, vous circulez à nouveau, mais c'est toujours difficile dans ce secteur. Le trafic devrait se fluidifier petit à petit.